partenariat officiel entre RCJ et Cannes Israël en français. RCJ, média du FSJU, et Cannes en français, la radio publique israélienne, partagent leurs programmes. Pour être encore plus près de l'actu en France et en Israël et en France, restez branchés. Téléchargez l'application mobile gratuite de RCJ pour écouter Cannes Israël en français, avec le concours du FSJU France-Israël.
Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage émouvant, poignant et surtout informatif de Nora. Nora a 34 ans. On lui a découvert un cancer du sein précoce, heureusement, très précocement. Et aujourd'hui, elle est avec nous pour témoigner, justement, pour informer les jeunes femmes sur la procédure, sur tout ce circuit à la fois et médical et psychologique par lequel on passe lorsqu'on se découvre si jeune un cancer du sein. Elle est avec nous pour en parler. Bonjour Nora.
Bonjour.
Merci Nora d'accepter de témoigner. On a pensé toutes les deux que c'était très important de faire cette émission ensemble parce que on souhaitait informer les jeunes femmes, informer les jeunes mamans de ce cancer du sein précoce, hein, comme on l'appelle. Vous avez 34 ans, c'est quand même extrêmement rare. Et pourtant, on en voit de plus en plus en Israël et dans le monde. Et la prévention est essentielle. Alors, comment cela a commencé, Nora? Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Comment vous avez découvert que vous aviez un cancer du sein?
Alors, en prenant ma douche, j'ai senti une boule et je me suis dit que, bon, ça pouvait être ça, mais ça pouvait être aussi un kyste, ça peut être plein de choses. Donc, je me suis dit qu'il fallait quand même vérifier.
Et Vous vous êtes touché les seins?
Oui. En prenant une douche, quoi, voilà. On passe du savon et j'ai senti vraiment une boule inhabituelle. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'aille faire une mammographie. Et je me suis dirigée vers un gynécologue, ce qui était une erreur en fait. Parce qu'en Israël, ce n'est pas le gynécologue qui fait les palpations mammaires, mais un chirurgien. Le gynécologue est habitué à ça. Il y a beaucoup de Français qui vont justement chez le gynécologue pour ça. Et il m'a quand même fait une afnaya, quoi, une ordonnance pour pouvoir aller faire une mammographie. Même s'il n'a pas le droit de faire de palpation. Donc j'ai eu quand même tout ça. Donc je suis allée avec cette afnaya à un centre spécial. Donc c'est selon les coupes Atrolim où on fait la mammographie, l'échographie du sein. Et il y a un chirurgien qui peut nous voir aussi si besoin. En faisant la mammographie et l'échographie le même matin, on me dit qu'il faut absolument que j'aille voir le chirurgien immédiatement. J'y vais. Il fait une palpation. Au début, il est surpris de mon âge. Je lui dis oui, mais bon, dans ma famille, il y a eu des cancers du sein, mais qui n'ont pas de récurrence génétique. C'est-à-dire que ma mère, par exemple, en a eu un à un autre âge, à l'âge de la ménopause, et elle n'avait pas le gène qu'on appelle en gros le gène du cancer du sein, disons. Donc, j'étais pas forcément plus apte à avoir un cancer, plus propice en tout cas à avoir un cancer du sein que quelqu'un d'autre. Et ce chirurgien m'a envoyé faire une biopsie le jour même à l'hôpital, donc dans l'après-midi. Il a appelé lui-même pour que je le fasse le plus vite possible. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai fait la biopsie le jour même à l'hôpital et j'ai reçu une réponse une semaine après. Et j'ai su que c'était un cancer, voilà.
Donc on peut dire que la prise en charge médicale, elle a été efficace, rapide. Bon, il y a eu l'attente, cette semaine d'attente qui a dû être très dure pour vous, inquiétante, bouleversante. Je crois également que vous avez une histoire à raconter, vous me l'avez racontée hors antenne, concernant un animal domestique très important pour vous, un chat, qui vous a accompagné toute votre vie. Et vous avez tout de suite, dès le départ, lié cette histoire à votre cancer. Est-ce que vous pouvez nous la raconter?
Alors, au risque de passer pour une folle, en fait, oui, j'avais un chat que j'avais depuis mes 18 ans et qui est morte un mois avant ma mammographie d'une masse dans la poitrine. Donc, voilà, et j'avais lu avant ça que souvent, les animaux très proches essaient de sauver leur maître d'une maladie. Et donc, c'est un élément qui a été déclencheur pour moi, parce que j'ai pas minimisé, en gros, la boule que j'ai sentie quand je prenais ma douche. Je me suis dit, c'est bizarre quand même que Zaza meure un mois avant, et ça a été très soudain et très fulgurant. et que moi, je ressente un truc, il faut que j'aille vérifier ça. Donc, j'ai senti que, en fait, elle me montrait le chemin et qu'elle me disait, il faut que tu ailles vérifier ça quand même. Donc là, je dois passer sans doute pour beaucoup... pour une folle, mais c'est vrai que pour moi, il y a eu un élément de protection d'elle, quoi, qui m'envoyait un message et qui me disait, il faut aller vérifier, et heureusement que je l'ai fait. Et je pense qu'il faut, il faut jamais tarder, en fait, à vérifier tout ça. Et même quand on sent rien, en fait, ça c'est très important. Et pousser, en fait, aussi les médecins généralistes à nous envoyer des AFNAIOT pour faire des vérifications, parce qu'il y a, apparemment en Israël, une femme sur neuf qui a un cancer du sein. Donc, c'est pas rien, et c'est pas seulement après 40 ans, quoi. Donc, avant 40 ans, il faut faire. Parce que ici, le dépistage, il est fait très tard. Entre guillemets, on le recommande à partir, je crois, de 40 ans. Mais moi, je suis dans plusieurs groupes de femmes qui ont ce cancer avant 40 ans. Et il y a eu un problème, justement, de dépistage. On ne force pas assez, entre guillemets, forcer, quoi, les gens à faire des dépistages, quoi. C'est important.
Alors, le dépistage est très important. Demandez à vos médecins une ordonnance pour aller faire une échographie, une mammographie. Il y a aujourd'hui même des navettes, hein, qui circulent dans tout le pays pour faire des mammographies ambulantes, en ambulatoire. On parle également d'échographies en 3D, qui sont les meilleures échographies de dépistage, très précoces, en tout cas du cancer du sein. Alors, Nora, revenons sur votre histoire. Donc, comment vous êtes maman? Et vous êtes mariée, comment vous avez annoncé ça à votre famille lorsque vous l'avez su?
Mon mari était avec moi quand j'ai reçu les résultats de la biopsie, donc c'est le médecin qui lui a annoncé. Pour lui, ça a été plus choquant que pour moi, parce que moi je m'y attendais, j'ai vu sur les images de la mammographie une semaine avant qu'il y avait quelque chose qui clochait, j'avais bien senti, je m'y attendais entre guillemets en quelque sorte, voilà. Lui, ça a été très dur. Pour mes enfants qui sont petits, ils ont 4 et bientôt 6 ans, je leur ai dit que maman était malade, mais j'ai pas encore posé le mot cancer, parce que j'ai mon père qui est mort d'un cancer, et quand il me posait la question, mes enfants, en fait, sur comment est mort papy, en gros, je leur disais, bah, il était très malade, il avait un cancer, et donc j'ai pas envie qu'ils associent ça à la mort, tout de suite. C'est-à-dire que je veux qu'ils comprennent évidemment que c'est pas rien, c'est pas un rhume, mais il faut pas non plus les effrayer, quoi. Ils sont encore petits, et voilà, donc je leur en parle, je leur dis que je vais être fatiguée et qu'il y a des moments qui vont être difficiles, mais je veux pas non plus que ça les affecte trop, quoi, parce que c'est pas facile pour eux.
Alors donc la biopsie s'avère positive, vous avez un cancer du sein, on vous propose une intervention chirurgicale, vous avez consulté, vous avez demandé plusieurs avis.
Oui, alors au début j'étais dans un hôpital entre guillemets de quartier, qui n'est pas vraiment de quartier, mais c'était près de chez moi, mais c'était pas un grand centre de recherche du cancer par exemple. Donc ils m'avaient dit eux qu'ils voulaient commencer par une chimiothérapie, et j'ai demandé un second avis, et dans un autre hôpital, on m'a dit qu'il valait mieux faire d'abord une chirurgie, donc enlever la tumeur, et après faire par prévention donc une chimio et une radiothérapie. Et j'ai choisi d'aller dans le centre plus grand parce que j'ai une amie qui, en France, m'a conseillé, qui est médecin spécialisé, oncologue, et du coup, elle m'a dit qu'il valait mieux aller dans les grands centres de recherche du cancer. Et il y en a un qui est assez connu en Israël, et j'ai eu beaucoup de conseils sur ça, c'est Tel HaShomer. Et en effet, c'est un des plus grands hôpitaux, il y en a beaucoup, les médecins sont très bons ici, mais j'ai voulu aller au meilleur du meilleur, quoi. Et donc j'ai eu une chirurgienne vraiment extraordinaire, oui, qui s'appelle Dr Herman, qui vraiment, je pense, c'est rare quand même, elle m'a même donné son numéro pour que je la contacte via WhatsApp pour après l'opération, pour voir que la cicatrisation se faisait bien. Enfin, c'est quand même très rare d'avoir des gens comme ça qui sont à ce point présents. Voilà. Donc, je suis allée avec elle et j'ai décidé personnellement de continuer en France. Mais parce que je devais retourner vivre en France et que je ne voulais pas que le cancer, en gros, change tout de ma vie. Donc, que ce ne soit pas... un arrêt pour nos projets de vie différents. Voilà.
Donc la chirurgie est passée, ça s'est fait assez rapidement. Vous vous êtes rétabli très vite parce que d'abord vous êtes jeune et c'est vrai qu'on récupère beaucoup plus vite. Et puis parce que tout s'est très bien passé. Et aujourd'hui donc on vous propose un traitement, on va dire préventif, puisqu'on sait qu'on reste pendant 5 ans avec une épée de Damoclès sur la tête. Hein, vous le savez, vous en êtes consciente. Et donc on fait de la prévention avec une radiothérapie et une chimiothérapie. Alors, racontez-nous, Nora, maintenant l'aspect médical, on a compris, ça, la prise en charge s'est faite vite, bien. Il y a quand même une procédure à laquelle vous avez pensé, qui est très importante, et qu'il faut absolument dire à nos auditrices, qui est celle d'avoir congelé vos ovocytes. Alors, racontez-nous comment, d'abord, l'idée vous est venue et puis comment ça s'est passé.
Alors c'est ma chirurgienne qui me l'a dit, qui m'a dit que si je faisais une chimio, et que ce serait probablement le cas, ça peut avoir des conséquences sur les ovocytes. Pas sur la fertilité, mais sur les ovocytes. Donc qu'il est préférable d'en faire, si on veut d'autres enfants, qu'il fallait que je réfléchisse, est-ce que je voulais d'autres enfants ? Donc j'ai réfléchi, et oui, je voulais d'autres enfants. C'est assez courant hein, comme procédure ici. Ils sont habitués à le proposer en tout cas, et il faut le faire vite parce que on peut pas faire cette procédure pendant la chimio. Il faut vraiment que ça soit fait avant. Et entre l'opération et la chimio, il y a un certain temps de toute façon à respecter, au moins 6 semaines ou 8 semaines en fonction de la cicatrisation. Donc j'ai utilisé ce temps-là pour moi-même faire cette procédure qui n'a pas été facile parce que je suis avec la Coupatrolim Clalit et ils ont regardé mon dossier médical et en gros, comme j'avais 2 enfants, ben, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas besoin de payer pour ces frais-là, que ça leur suffisait. Donc ça a été une grande déception pour moi, ça. Et ça coûte 6 500 shekels pour un tour, en gros, d'hormones et tout ça. Il y a des femmes qui font ça pendant plusieurs mois, mais là, mon cas n'était pas ça. C'était dans l'urgence d'avant une chimiothérapie. C'est pas parce que j'étais pas fertile. Donc, c'est différent. Donc, 6 500, plus après tous les médicaments qui m'ont coûté, donc toutes les piqûres, 2 000 shekels. Donc, ça fait 8 500 shekels. C'est pas une petite somme. Et ça me paraissait complètement injuste que certaines femmes puissent recevoir ce traitement complètement gratuitement. Parce qu'elles ont un enfant ou pas d'enfant, et que d'autres qui en ont 2 ou plus ne puissent pas l'avoir. Après, je peux comprendre que ce soit difficile pour une coupa d'avoir assez d'argent, mais même pas prise en charge un tout petit peu, quoi, même pas la moitié, même pas 10%, rien. Donc, j'en ai parlé à ma mère qui m'a proposé de payer pour moi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé le processus, parce qu'en plus, il y a le temps qui compte, parce qu'il faut que je fasse ça vite, vu que je veux commencer la chimio vite. Donc voilà, et j'ai une amie israélienne qui m'a proposé de parler avec une association, parce que moi je ne connaissais pas, et ça c'est très important, et je veux le dire à toutes les femmes qui se sentent peut-être désespérées par ce genre de situation, parce que je l'ai été, hein, désespérée, c'est donc ce fonds qui s'appelle Boxenbaum, je ne sais pas bien le dire, on peut trouver sur internet, et on peut les contacter, et leur envoyer tout notre dossier, une lettre expliquant pourquoi on veut faire cette préservation d'ovocytes. Et dans mon cas, c'était pour une chimio et tout ça, et que j'avais envie d'avoir d'autres enfants. Parce que, ou en tout cas, l'option d'avoir d'autres enfants, parce que sais-je dans 5 ans où j'en serai, dans 4 ans où j'en serai. Donc, je les ai contactés, et j'ai eu beaucoup de chance. Ils ont pris mon dossier et ils m'ont payé mes frais. Ils n'ont pas payé mes médicaments, mais bon, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Ils ont quand même pris en charge les 6 500 shekels, et je les remercie profondément. Et c'est grâce à des fonds comme ça qu'on peut s'en sortir, et c'est important pour les gens qui, comme moi, sont des Français qui ne connaissent pas forcément le système israélien, de savoir que tout est possible. C'est-à-dire que tout, là où il y a des lacunes dans le système social, il y a toujours des fonds, des associations qui prennent en charge des choses. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter. Il y a aussi cette association, et celle-là, j'en parle vraiment parce que je pense que c'est très important. Ils recensent tout, en fait. Dès qu'il y a un problème, on peut leur poser la question. C'est 1 sur 9, c'est Echad Miteisha. Donc c'est juste pour le cancer du sein et ce sont des femmes qui sont bénévoles et qui nous contactent pour tout, c'est-à-dire l'aide psychologique aussi, pour les partenaires aussi. Donc pour mon mari, s'il avait besoin, il pouvait parler dans des groupes de soutien, avec des psys professionnels. Et tout ce qui est aussi perruques, tout ça, ils nous aident. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout eux, mais ils nous envoient dans certaines associations. Voilà, donc ça pour moi, c'est essentiel. N'oubliez pas, Echad Miteisha.
Alors oui, tout à fait, les associations en Israël sont très présentes et très puissantes. Elles accompagnent toutes sortes de problèmes et comme vous le disiez, elles comblent les lacunes hein, très souvent. Est-ce que vous avez participé à des groupes de parole, par exemple, de femmes atteintes du cancer du sein ou bien des groupes sur Facebook? Vous avez communiqué avec des femmes qui sont dans votre cas?
Alors oui, j'ai communiqué avec des femmes via Facebook et via WhatsApp. Elles ont créé des groupes de soutien. Souvent, j'ai été en contact avec des olim, en fait, des olot, disons. Parce que en hébreu, j'ai l'impression que c'est pas la même situation. C'est-à-dire que quand on est né en Israël, on a quand même notre famille, nos amis, on comprend le système plus facilement. Alors que quand on vient d'un autre pays, peu importe, hein, que ce soit la France, les États-Unis ou peu importe, on a quand même aussi cette barrière de la langue culturelle ou de plein de choses. Et du coup, ce soutien-là a été vraiment super. Il y a une femme qui... J'ai demandé des conseils, en fait. Je leur ai dit, qu'est-ce qui vous a aidé le plus pendant cette période-là? Qu'est-ce qui vous a fait tenir le coup, disons? Et donc, tout le monde avait évidemment des choses différentes. Et il y a une femme qui a dit, j'ai créé un groupe WhatsApp pour mes amis pour les tenir informés de ma situation sanitaire, en gros. Parce que moi, j'en pouvais plus de recevoir plein de messages très bienveillants de tous mes amis et mes proches, mais je me répétais au moins 10 ou 15 fois par jour. Et donc, ça, au bout d'un moment, on fait que penser à ça et ça devient un enfer. Donc, j'ai créé un groupe sur WhatsApp en français avec tous mes contacts, amis, proches qui le désiraient, pour avoir de mes nouvelles, en tout cas sur ce plan-là, sur le plan cancer. Et il n'y a que moi qui peux écrire dans le groupe, parce que je ne voulais pas aussi que les gens soient inondés de messages, des cœurs, des smileys et tout ça. Donc j'ai fait ça, j'ai fait aussi un groupe en anglais, comme ça, ceux qui ne parlaient pas français, je l'ai fait. Et comme ça, dès que j'ai des nouvelles, en fait, dès que j'ai passé un rendez-vous important, qu'une opération a été faite, les gens sont au courant, ils sont rassurés, et après on peut continuer à parler d'autres choses en privé. C'est-à-dire qu'on peut continuer à vivre et ne pas être que dans ça, que dans la maladie. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment pas un truc que j'ai envie de faire, quoi. Voilà, donc ça m'a vachement aidée, par exemple. Et il y a plusieurs femmes qui m'ont écrit en privé, qui m'ont dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, elles étaient là. Et je les remercie vraiment chaleureusement, des Anglaises, mais aussi des Françaises, qui vivaient dans ma ville de Batiam ou ailleurs, mais ça a été vraiment... Il y a une belle solidarité parce qu'elles savent ce que c'est. Et c'était des femmes de tout âge, hein, cette fois-là. C'est pas que des jeunes. Mais c'est aussi, je pense, important de participer, en effet, à des groupes de parole. Si je restais ici, je pense que je l'aurais fait. Surtout avec des femmes qui sont à peu près le même âge, parce que c'est pas la même chose de vivre un cancer du sein à 35 ans que d'en vivre un à 60, quoi. Donc, et ça veut pas dire qu'il y en a un qui est pire que l'autre, hein, c'est juste que c'est différents challenges. Et c'est important de communiquer sur ça.
Alors justement, Nora, on a le sentiment, parce que vous êtes très bonne comédienne, hein, j'ai envie de dire, que vous avez vécu les choses facilement, avec le sourire, sans jamais vous plaindre. On n'a jamais entendu une plainte de votre part. Comment, au niveau psychologique, vous avez vécu les choses? Parce que je ne vous pose pas cette question par voyeurisme, hein, ou pour faire larmoyer nos auditrices, mais je voudrais que les gens comprennent que c'est normal de passer par des états d'âme différents, d'être en high, comme on dit en hébreu, d'être super excité, puis tout d'un coup de déprimer complètement. Comment on le vit?
Alors oui, c'est vrai que je cache bien mon jeu. J'ai tout de suite voulu voir une psy. C'était pour moi une évidence. J'ai jamais eu honte de faire une psychothérapie et je pense qu'il n'y a aucune honte, si ce n'est même, il faudrait avoir de la fierté à aller voir une psy. Donc j'ai recontacté ma psy extraordinaire que j'avais eue dès mon début, en fait, ici, presque il y a 9 ans, en gros, et qui connaît mon histoire et tout ça, et elle m'a tout de suite accueillie les bras ouverts. parce que malheureusement, là je vais dire quelque chose un peu triste, mais il n'y a pas d'accompagnement via Clalit par un psy en français. Et je pense que c'est important de parler dans sa propre langue, dans sa langue natale, peu importe quelle qu'elle soit, mais il n'y a pas de psy qui est remboursé par la sécurité sociale en gros. Mais il y a certaines assurances maladie, donc vérifiez ça si vous êtes dans ce cas-là, qui prennent en charge une partie des psychothérapies. Et il faut, selon le psy que vous avez, parce qu'il faut qu'il soit reconnu comme clinicien, comme psy clinicien. Mais c'est très compliqué. Il y a des associations qui aident, en tout cas en hébreu, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir toute thérapie comme ça. Moi, j'ai eu de la chance parce qu'elle m'a fait un prix qui était complètement abordable parce qu'elle connaissait ma situation et donc elle a été hyper sympa de me faire un bon prix. Mais ça reste quelque chose où je pense qu'il faudrait vraiment attirer l'œil de l'État sur ça, sur le fait qu'il faut absolument reconnaître tous les psys, parce qu'il y en a plein des psys français en Israël. Je veux dire, c'est dommage de ne pas avoir ça qui soit pris en charge quand même pour des gens qui sont encore plus fragilisés par le fait d'être pas dans leur pays d'origine. Donc c'est essentiel pour moi qu'il y ait un accompagnement psychologique et qui m'a également beaucoup aidé à faire le point sur beaucoup de choses. Et évidemment, comme je pars d'ici, c'est ce qui m'a motivée aussi. C'est-à-dire que le fait de partir, ça m'a aussi, moi personnellement, ça m'a moins atteint. C'est-à-dire ma chirurgie, tous ces trucs-là, toutes ces opérations, tout ce qui se passait, c'était, oui, pas facile, mais comme j'avais l'espoir d'autre chose, ça m'a maintenue en fait.
En fait, l'idée d'avoir un projet de vie qui vous attendait avec votre mari, vos enfants, votre famille, ça vous a tenu, ça vous a permis de passer cette étape plus facilement. Donc, c'est aussi un très bon truc à passer à nos auditrices, avoir un projet de vie, même lorsqu'on est malade, pour voir plus loin, pour avoir un horizon, pour voir l'avenir, en fait, hein, Nora, c'est ça. Mm-hmm. Alors, on retient de cet entretien, Nora, plusieurs choses. On retient d'abord la vigilance, apprendre à se palper les seins sous la douche régulièrement, aller voir un médecin dès qu'on a un doute, faire une prise en charge le plus rapidement possible, choisir le bon médecin, le bon centre, le bon hôpital où on sent qu'on va être bien pris en charge. Penser à congeler ses ovocytes lorsqu'on est une femme jeune et qu'on a envie d'avoir d'autres enfants. Contacter les groupes de femmes atteintes d'un cancer sur WhatsApp, sur Facebook. Aller les voir, contacter les associations. Il y a beaucoup d'associations et de fonds de Keren qui peuvent aider financièrement à la
prise en charge. Merci, Manuel
Ada. Vous me dites oui de la tête, donc je ne me trompe pas jusqu'à maintenant. La prise en charge psychologique, aller voir un psy, ne pas rester seul, parler, mettre des mots sur les mots, comme on a l'habitude de dire, parce que ça aide. Et puis avoir un projet de vie, je trouve que cette idée est magnifique, Nora, avoir un projet de vie, même pendant la maladie.
Surtout pendant la maladie, en fait. Et c'est là que... Mais en fait, en vous entendant, j'avais l'impression qu'il y avait plein de choses et que ça peut paraître ça peut paraître comme une sorte de montagne à gravir, mais pour toutes celles qui nous entendent, faites les choses petit à petit. C'est pas grave. C'est pas grave de pas tout faire d'un coup. C'est pas grave de pas réussir à contacter toutes les associations. Parce que ça peut être too much, quoi. Ça peut être tout d'un coup, oulala, faut que je pense à ça, faut que je pense à ça. Non. Pensez à ce que vous voulez faire maintenant, à vous réparer maintenant d'un point de vue de santé. C'est la chose la plus importante. Et lentement, progressivement, de contacter ces gens-là. Parce que je sais que moi, ça m'a pris beaucoup d'énergie d'appeler les associations, de faire des recherches. C'est énorme, c'est beaucoup de choses. Il faut le faire, mais lentement, sans vous mettre la pression de « Oh là là, il faut vite que je fasse ça, il ne faut pas que j'oublie de faire ça ». Non, ce n'est pas grave. Faites-vous une liste, mettez chaque semaine un truc à faire, un truc à accomplir, petit à petit. Mais c'est vrai que le projet de vie, peu importe... qu'est-ce qu'il il peut représenter pour vous. Ça peut être juste un truc au travail ou, je ne sais pas, des belles vacances après tout ça. C'est quelque chose qui vous maintient parce que sinon, vous allez être que dans ça, que dans la maladie et ça n'aide pas même à se guérir, en fait. Donc, surtout, ne pas s'inquiéter de ne pas avoir tout fait. Parce que moi, je sais que ça, c'était des choses qui me pesaient vachement, qu'il fallait que je fasse tout d'un coup, qu'il fallait que je contacte ci et ça, et oh là là, c'est en hébreu, et oh là là, je ne vais pas y arriver, et mon Dieu, comment faire, comment, voilà. Donc, c'est pas grave de pas tout comprendre, de pas tout gérer d'un coup. Et surtout, de garder le moral sur ça, parce que c'est très très dur, et il y a plein de choses à faire, plein de choses à penser, et nos pensées se mélangent. Et en tant que femme, je sais aussi à quel point on a plein d'autres choses à gérer en plus. Dans un foyer, même sans foyer, même quand on n'a pas d'enfant, on a plein de trucs à gérer. Et c'est pas grave de pas réussir. Voilà, c'est pas grave de pas tout gérer d'un coup. Moi, j'ai eu plein de fois où je me suis retrouvée en larmes dans les hôpitaux à rien comprendre. Là, justement, bah, hier, on m'a pas prévenu que ma chirurgienne était malade. Je suis arrivée à Tel HaShomer et plus personne pouvait me voir. Je me suis retrouvée dans les couloirs, à toute seule, à rien comprendre. Donc, oui, j'ai eu ces moments-là aussi. Mais c'est pas grave. Bah, c'était pas un rendez-vous essentiel. C'était pas. J'ai relativisé. Il faut relativiser. C'est très important, ça. Voilà.
Nora, merci beaucoup pour ce témoignage très émouvant et ô combien important. J'espère que le message passera auprès des femmes. On vous souhaite une très bonne santé, très vite, une guérison totale, comme on dit. Et puis, on souhaite aussi vous revoir très bientôt en Israël, parmi nous. Mais profitez en tout cas de cette expérience, de ce voyage, de ce départ et revenez avec beaucoup de force et d'énergie. Merci Nora d'avoir accepté de témoigner.
Merci beaucoup, merci, merci et bonne santé à toutes et à tous. Et merci encore Emmanuel.
Vous venez d'écouter une émission de Can Israël dans le cadre du partenariat entre la radio Can Israël, la radio publique d'État israélienne et RCJ. Vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant notre application mobile.